Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc reprendre, si vous le voulez bien, le courant de cet exposé sur les préliminaires au grand sacrifice du Yasna. Bien, alors, comme nous l'avions établi la dernière fois, les 15 premiers chapitres du Yasna sont composés de la mise bout à bout de trois morceaux. L'arrangeur a utilisé trois textes distincts. Le premier, du chapitre 1 au chapitre 7, nous allons lui donner, puisque les commentateurs récents ou même anciens l'appellent par son verbe constitutif, nous lui donnerons son titre indien, c'est la Nivida. La Nivida, c'est une Nivida, donc une annonce du sacrifice. Le second texte, du chapitre 9 à la 10e phrase du chapitre 11, s'appelle Hobstom. Les manuscrits donnent ce titre en moyen iranien, mais c'est un titre qui très clairement peut être reconstruit en langue avestique même, grâce au texte, Yasna 10.2, comme un Hauma Stauma, Stauma ou Stoman. Nous ne savons pas exactement si le dérivé est en ma ou en man. Donc, un éloge de la liqueur sacrée Hauma. Enfin, les manuscrits intitulent la suite, ce que j'ai appelé la zone des déclarations, ou bien pour la définir par sa langue, la zone moyenne avestique, n'est-ce pas, se définit elle-même comme la Fraoreiti Haiti. Donc, le chapitre du choix, c'est une référence à la forme verbale Fravarané, qui constitue le centre du passage. Cette Fraoreiti Haiti occupe donc les va du chapitre 11, 11e phrase, jusqu'au Yasna 15.4, c'est la dernière phrase du Yasna 15, étant bien entendu, comme nous l'avons vu la dernière fois, je vous le rappelle, qu'il faut intégrer à ce passage trois phrases du Yasna 8, donc avant le Homestone, trois phrases du Yasna 8, et ensuite les intercalations du Visperet 3 et 4 qui sont insérées juste avant la strophe ultime du Homestone, donc entre le Yasna 11-9 et le Yasna 11-10. Bien. Dans cette Fraoreiti Haiti, je vous le rappelle, la justification sacrificielle est très claire. Le sacrifiant qui est entré en scène au Yasna 8, ou les sacrifiants, selon que l'on envisage le chef du collège sacrificiel qui est le Zaoutar, ou bien l'ensemble des huit prêtres en exercice, le sacrifiant procède à son auto-immolation. Donc il se réduit à son âme immortelle qui est l'Urvan. Il prononce l'expression de son choix sacrificiel par la formule Fravarané, disant « je choisis d'être Mazda Yasna », c'est-à-dire « je fais le choix sacrificiel d'être quelqu'un qui adresse son rite, son sacrifice au dieu Ahura Mazda ». Fravarané, c'est le verbe dont est dérivé le nom de la Fravashi, l'autre âme immortelle, céleste, celle-là. Donc, la deuxième âme immortelle est en place, le sacrifiant est connecté à sa Fravashi et renouvelle le choix que les Fravashi ont fait au début des temps, lorsqu'elles ont sacrifié afin de protéger l'ordre du monde naissant. Enfin, l'ensemble de cette procédure, l'auto-immolation, le choix sacrificiel, le pourvoi de sa troisième âme immortelle, féminine, qui est sa Daïna, l'âme qui permet la survie mentale dans l'autre-là. À ce point de notre enquête, maintenant je reprends le cours après avoir résumé, je vais reprendre le cours de notre enquête. Trois difficultés apparaissent, trois questions se posent plus exactement. La première, j'y ai fait allusion la dernière fois. Quelle différence faut-il faire entre nivid, que je traduis par annoncer, comme je vous l'ai dit, pour éviter le verbe inviter, et le verbe asba, qui termine le morceau, Yasna 15.1, et qui, lui, exprime réellement l'annonce, l'invitation officielle des dieux au sacrifice, asba. Du moins, c'est le point de vue de l'arrangeur du Yasna, n'est-ce pas, puisque une fois l'invitation en asbaya, j'invite, lancé, il va énumérer les dieux énumérés. Alors, avec le Yasna 16, à la suite de cette invitation, l'arrangeur ordonne, introduit dans le texte, une nouvelle strate, cette fois qui est de pur avestique récent. C'est de l'avestique récent de type tout à fait classique. Enfin, nous n'avons plus, ce n'est plus du moyen avestique. Donc, la difficulté est la suivante. Le panthéon qui va être énuméré dans le Yasna 16 et le Yasna 17 n'est pas nécessairement le panthéon de l'auteur de la Fraureiti Haiti, du passage moyen avestique. C'est-à-dire que l'auteur qui a dit Asbaya, j'invite, qui a prononcé la formule sacrificielle, avait peut-être un panthéon totalement différent en tête. Hein, nous ne savons pas. C'est, naturellement, cette énigme n'appartient pas au Yasna. Le Yasna est un texte, c'est toujours les deux niveaux de notre analyse qui sont en cause. Le Yasna comme arrangement cohérent et la composition propre de ses parties constitutives. Donc, nous n'avons pas nécessairement le panthéon moyen-avestique. C'est une nouvelle strate textuelle. Un nouveau panthéon a peut-être été introduit. C'est la deuxième question. Ensuite, la troisième question, que se passe-t-il à présent? Que se passe-t-il avec le Yasna 16? L'impression que nous avons est un peu gênante. Notre impression, c'est que le préambule se prolonge indûment. Ça dure longtemps. Il y a encore du chemin à faire, n'est-ce pas, jusqu'au Yasna 27-13, quand le moment fatidique viendra d'entamer la prononciation de l'Avesta ancien. Nous sommes au Yasna 16-1. Il reste 11 chapitres, 11 longs chapitres de préambule. Et non seulement les préambules se prolongent, mais on a l'impression aussi qu'ils sont répétitifs. On a l'impression que les choses recommencent. Une litanie énumérative, comme la Nivit, Yasna 16 à 17. Trois chapitres, Yasna 18 à 21, quatre chapitres de commentaires de textes anciens, comme si à ce moment-ci du rituel, le sacrifiant se trouvait obligé à nouveau de démontrer sa science des textes, de démontrer sa connaissance ésotérique du sens des textes sacrés, comme il l'a fait à deux, trois reprises dans le Homestome. Donc c'est une pratique qui se répète, semble-t-il, mais avec plus d'ampleur que dans le Homestome. Enfin, à partir du Yasna 22, le collège sacerdotal procède à un nouveau pressurage de Hauma, qui est réel, celui-là, dans le rite. Le Hauma est réellement pressuré entre le Yasna 22 et la 12e phrase du Yasna 27. Et ce pressurage de Soma a ce site particulier que son récitatif est entrecoupé d'invocations au Fravashi, ce qui nous renvoie à Fravarané. Vous voyez, le nombre, la succession de phases identiques qui se renouvellent. Alors, bon, jusqu'ici, avant de m'intéresser de plus près à ces passages, d'approfondir ma réflexion, je pense que je vous l'ai dit l'an dernier, j'ai procédé à une hypothèse que je savais superficielle, mais innocente. Je ne vais pas, si elle est erronée ou si elle est imprécise plus exactement, ça ne peut pas être une erreur très grave, n'est-ce pas? Et j'ai proposé à ce moment, ne sachant trop comment interpréter les faits, que le prêtre qui avait acquis sa personnalité sacrificielle par toutes les opérations qui se prolongent jusqu'au Yasna 15, recommencer parce qu'il donnait à ce qu'il avait fait jusqu'alors, en quelque sorte, le sceau de la perfection. Sa personnalité sacrificielle est entièrement constituée, donc il va recommencer. Il y a peut-être de cela, mais il n'y a pas que cela, nous allons voir. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que cela, car les textes, lorsqu'on les examine de très près, présentent un certain nombre de particularités. Nous laissons de côté le Yasna 17. Le Yasna 17 est une pure répétition du Yasna 6. Du Yasna 6, donc d'un élément de la Nivite. Mais le Yasna 16 est un texte très curieux et qui présente, en gros, cinq caractéristiques. Et cinq caractéristiques qui le différencient très fortement de toutes les litanies, du type Nivite qui parsèment le Yasna. Bon, là, je vais dire qu'il y en a trois que nous pourrons... sur lesquels il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de commentaires, mais que nous verrons pourtant réapparaître et qui s'éclaireront parfois, pas toutes. Je commence par la plus banale. C'est que ce texte mentionne des divinités inusuelles. Ce ne sont pas les divinités que nous connaissons bien par ailleurs. Certains dieux à qui l'on rend le sacrifice, le Yazamaïdé de la litanie, ce sont des dieux qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs. C'est des dieux que nous ne connaîtrions pas sans le Yasna 16. C'est une chose extrêmement curieuse et les additions du Vispuret 7 le confirment. Pas que sont par exemple ces divinités, ces étranges divinités, que les deux choses, nous ne savons pas quoi, celles que l'on ne peut pas jeter à terre, les deux choses que l'on ne peut pas jeter à terre et les deux choses que l'on ne peut même pas ébranler. Bon. Voilà deux entités, des entités doubles, des entités duelles à qui le Yazamaïdé est rendu pour prendre un exemple. Alors, une deuxième caractéristique, nous la verrons ressurgir celle-là, nous pourrons la commenter. Elle est étonnante, n'est-ce pas ? C'est la personnalité de Zarathoustra. Zarathoustra est rarement mentionné dans le Yasna, comme l'a montré il y a une trentaine d'années Bernfried Schlerat. C'est une caractéristique du Yasna récent, avant l'Avesta ancien, de ne pas mentionner très fréquemment le nom de Zarathoustra. Il est, comme nous le savons, un intervenant du Homestome, bien sûr. Mais c'est un cas quasi exceptionnel dans le début du Yasna. Or, qui est Zarathoustra pour l'auteur du Yasna 16 ? Quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un personnage de l'histoire, ce n'est pas un personnage historique, ce n'est pas un personnage de légende. Il n'y a pas de roman dans le Yasna 16. Ce n'est pas un vague souvenir du passé, pas un item d'une spéculation sur l'histoire mythique du monde. Non, c'est un dieu, c'est une divinité. C'est un dieu qui est au monde terrestre ce que Ahura Mazda est au monde céleste. D'où d'ailleurs l'importance accordée, cela va de pair avec l'importance accordée dans le Yasna 16 à l'opposition qui n'est pas vieille avestique, entre ce qui est Mahinyava et ce qui est Gaïtia. Or, ce qui est Mahinyava et ce qui est Gaïtia, cela peut avoir le sens très... je vais donner un sens moderne, un sens à la spéculation moyen-perse, hein, immatériel et matériel, spirituel et matériel, Mahinyava, ou bien... Dans l'Avesta, nous avons tout de même les traces très visibles d'un autre sens accordé aux deux mots. Ce qui est Mahinyava, c'est ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, dans l'air. Pas au ciel, hein, pas dans le ciel des dieux, dans l'atmosphère, dans l'espace entre la surface de la terre et la voûte du ciel. Bon, aérien, si vous voulez, traduirez par aérien. Et Gaïtia, c'est ce qui se trouve à la surface de la terre, terrestre. Étant bien entendu, alors que l'opposition spirituelle, matérielle, se remanifeste, n'est-ce pas, à l'intérieur de ces catégories. Car ce qui se trouve sur la terre est naturellement matériel, c'est-à-dire astvant, pourvu d'os, matériel. Vous voyez, le mot matériel, ce n'est pas gaitia, c'est astvant, pourvu d'os. Et alors, quelque chose qui est spirituel, tout de même à la surface de la terre, mais c'est la seule chose, c'est la pensée des hommes. C'est la pensée des hommes. D'où le terme de pensée, génitif singulier du nom de la pensée, ou bien un dérivé manachia, un dérivé secondaire adjectif du nom de la pensée. Ça, c'est spirituel. Et la distinction est faite à l'intérieur de l'espace terrestre. Et vous allez me dire, et le monde céleste ? Ben, le monde céleste, il est composé essentiellement de Dieu. Bon. Donc, alors, que dire ? Ben, il est nécessairement seulement... comment aller vérifier si les dieux sont matériels ? tout ce que l'on peut dire des dieux, n'est-ce pas, comme la distinction que l'on peut faire, c'est qu'ils sont visibles ou ne le sont pas. Il est évident que le soleil, qui est une divinité, est visible. Il est visible. Mais certaines choses ne sont pas visibles. Alors, il y a une certaine dose d'incertitude. Où va-t-on classer le vent? Le vent est-il ou non visible? C'est une distinction qui est très difficile à faire. Nous ne pouvons non pas établir. L'espace vide lui-même est une difficulté, est une divinité. C'est le dieu Vayu. Dieu Vayu, c'est l'espace vide, invisible bien sûr. Mais le monde Mainyava est peuplé de divinités. Bien, ça c'est la deuxième question, en liaison avec la personnalité de Zarathoustra. Donc, Zarathoustra est le grand dieu du monde gaïtien, du monde terrestre, selon le Yasna 16. Ensuite, troisième caractéristique que nous retrouvons aussi, et qui est intéressante, c'est que, elle va durer dans le préambule du Yasna, c'est la pratique de l'assimilation des dieux à d'autres dieux. Nous en avons deux exemples dès le Yasna 16. On invoque dans une curieuse phrase, très originale, que nous n'avons pas par ailleurs, les Fravashi, alors que généralement les textes sont répétitifs, et que c'est le Yasht 13 au Fravashi qui est utilisé lorsqu'il faut les mentionner, nous avons une phrase originale. Et cette phrase nous dit explicitement, ce qui n'est nié partout ailleurs dans l'Avesta, les Fravashi, ce sont les âmes des morts. Or, les Fravashi ne sont pas les âmes des morts. Elles sont les âmes de tous. Le Yasht 13 est très clair à cet égard. Les Fravashi sont les âmes des hommes qui sont déjà nés et de ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a donc des Fravashi d'hommes morts, effectivement, mais pas seulement. Or, l'assimilation est faite avec les âmes des ancêtres, en quelque sorte. Dans cette phrase du Yasna, c'est une assimilation tout à fait isolée que nous ne retrouverons plus, celle-là. Mais nous en retrouvons d'autres. Une autre dans le même Yasna 16, une autre assimilation est faite qui, elle, est beaucoup mieux connue parce que nous l'avons déjà détectée dans la zone des déclarations, dans la couche moyenne avestique, n'est-ce pas ? C'est l'assimilation de la déesse Armaïti. Armaïti qui est une allégorie de la piété humaine à la Terre. La Terre en tant que secteur du cosmos, pas la Terre en tant que matière. Armaïti est à la fois cette déesse de la piété, cette incarnation de la piété et la terre. C'est la seule des divinités qui montre cette bifurcation vraiment intéressante entre un secteur de la nature et un secteur de la psychologie humaine. C'est un de ces rares passages. Donc, deux traces d'assimilation. Là aussi, la strophe est très intéressante. C'est une strophe qui, pour une fois, nous donne peut-être une donnée économique. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Avesta, n'est-ce pas ? Et qui semblerait indiquer que ce que l'on appelle la chiti, c'est-à-dire l'habitation, et nous nous posons toujours la question de savoir ce qu'un mot qui signifie l'endroit où l'on habite, c'est intéressant pour situer la société de l'Avesta. Quelle est la durée de cette habitation ? Est-ce que ce sont des habitations sédentaires ? Est-ce que ce sont des haltes de longue durée? Est-ce que ce sont au contraire des quartiers saisonniers, n'est-ce pas, de semi-nomadisme? Ce sont des faits intéressants. Eh bien, cette phrase semble indiquer qu'il y a un quartier d'été et un quartier d'hiver. Nous aurions donc des établissements qui se font au gré de l'opposition entre la belle saison et la mauvaise saison. Peut-être. On peut comprendre cela. Donc, ces phrases très particulières sont aussi intéressantes. Alors, nous avons une quatrième caractéristique qui va nous retenir. Quatrième caractéristique, l'isolement en tête du panthéon de sept noms divins qu'il est communément, mais improprement, y compris dans l'érudition scientifique, habituel de définir comme les Ameshaspenta. Donc l'heptade canonique de ceux que l'on appelle les immortels bienfaisants est isolé en tête de liste, en tête du panthéon. Ça, je le mets en réserve. Mais je voudrais que nous, euh, nous attardions un peu aujourd'hui sur une cinquième caractéristique. Cinquième caractéristique, une cinquième spécificité du yasna 16. Le yasna 16 est composé de la manière suivante. Naturellement, une élogie d'Ahura Mazda au départ, comme dans la Nivite d'ailleurs, n'est-ce pas ? La Nivite aussi procède de cette manière. On commence par une longue élogie d'Ahura Mazda. Ensuite, à son équivalent, élogie de son équivalent dans l'espace terrestre. Donc, une élogie de Zarathoustra comme dieu de l'espace terrestre. Et puis, à la suite de la liste, vient un calendrier, quatre strophes, qui représentent les noms des jours de la semaine. Et en tête de liste, le nom des sept Ameshaspenta représente de cette manière très clairement les noms des jours de la première semaine du mois. C'est ce que sont ces Ameshaspenta. Donc une liste divine qui correspond très clairement à un calendrier. Très clairement, c'est le calendrier religieux que nous connaissons par d'autres sources, dont une source avestique, et qui s'appelle le Sirosa. Sirosa, qui, je crois que, va être bientôt édité, qui fait la liste des divinités qui patronnent les jours du mois, et et avec d'ailleurs leurs auxiliaires, car ils sont pourvus de divinités annexes auxiliaires. Ici non. Seule la divinité centrale est mentionnée. C'est donc un calendrier. Et puis après le calendrier, dans les phrases qui suivent dans le Yasna 16, il y a exactement. Nous sommes maintenant à la strophe 5, il y en aura encore 5. Il y en aura encore 5, mais c'est les 5 strophes restantes sont celles qui énumèrent toutes ces divinités inusuelles dont je vous ai parlé. Alors, il y a, n'est-ce pas, une implication intéressante à ce calendrier. C'est-à-dire que l'image qui est donnée du Panthéon, à travers la liste des patrons des jours du mois dans l'énumération du Yasna 16, implique une représentation d'un corpus de texte. Je vais m'expliquer. Nous rejoignons ainsi l'un des problèmes que je vous signalais lors de la toute première conférence, à savoir, que savons-nous de l'histoire de l'Avesta ? Je n'ai résumé lors de la première conférence que ce que nous savons de la période de transmission écrite, avec cette phase qui l'a précédée, et qui était celle de l'invention de l'écriture, certainement, mais je n'ai rien dit, et pour cause, de la période orale de transmission, qui était fort longue, certainement environ 2000 ans pour les textes les plus anciens. Or là, nous n'avons aucune idée, nous n'avons aucune idée de ce qui a pu se produire, mais un seul fait est évident. Un seul fait s'est produit un jour, mais nous ne savons pas quand. C'est que la tradition religieuse qui a produit les textes avestiques, les textes avestiques eux-mêmes aussi, n'est-ce pas, et qui appartiennent au monde de l'Iran oriental, ont été transplantés en Perse, puisque à l'époque sassanide, c'est en Perse que se trouvent les écoles liturgiques, et c'est en Perse que l'on va rédiger toute la littérature de commentaires de l'Avesta. Il y a donc eu un déménagement à une période indéterminée du temps. Et nous ne savons pas qui en a pris la responsabilité. Oh, bien sûr, suspecter les différents pouvoirs politiques, bien entendu, n'est-ce pas ? Alors, la seule explication qui ait jamais été apportée à ce problème l'a été par Karl Hoffmann. J'ai mentionné le nom de Karl Hoffmann il y a 15 jours, parce que c'est lui qui a jeté une lumière décisive, peut-être, sur l'histoire de la transmission écrite de l'Avesta, mais il a émis une hypothèse aussi sur l'histoire de la transmission orale. C'est ce qu'on a appelé l'hypothèse arachosienne. C'est une hypothèse qui est très faible, et qui est fondée presque essentiellement sur quelque chose de scientifiquement inadéquat, c'est-à-dire des postulats phonétiques. Certaines formes linguistiques, certaines formes grammaticales ou certaines réalités phonétiques que présenterait la langue de l'Avesta seraient, selon Hoffmann, attribuables au dialecte arachosien. le dialecte arachosien. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas le dialecte de l'arachosie ancienne. Nous ne le connaissons pas. Mais en faisant intervenir des arguments qui appartiennent à un tout autre domaine de réflexion, à un tout autre domaine scientifique que la linguistique, entre autres, la présence assez fréquente d'arachosiens que l'on reconnaît à leur coiffe sur les représentations, sur les bas-reliefs de Persépolis, donne l'impression qu'effectivement la présence à la cour des rois achéménides des arachosiens était massive. Et Hoffmann tire de cela la conclusion que leur présence massive à Persépolis tenait au fait qu'ils incarnaient une tradition religieuse, que les rois achéménides venaient d'acclimater à la Perse. Donc Hoffmann a certainement pensé que la transplantation de la tradition avestique d'est en ouest était due aux rois achéménides. Au roi achéménide. Peut-être. Hein, peut-être. Je fais la critique de Hoffmann. Je ne sais pas si Hoffmann a raison ou tort, en l'occurrence. Son hypothèse n'est pas une hypothèse qui n'est pas invraisemblable. Une telle transplantation doit avoir eu lieu sous les achéménides. La seule critique que je me permets envers cette hypothèse, c'est ce qui est rare chez Hoffmann, car Hoffmann était un grand maître de l'argumentation. Ceux qui le lisent le savent, n'est-ce pas ? Le caractère impérieux et systématique d'une argumentation d'Hoffmann est quelque chose de véritablement caractéristique. Or, ici, non. Ces arguments sont d'une faiblesse insigne. Aucun argument de soutien à l'hypothèse arachosienne, de fondement de l'hypothèse arachosienne, ne paraît vraiment décisif et fondé sur un certain nombre d'imprécisions ou de présuppositions qui ne laissent pas augurer fort favorablement, tout au moins de l'origine de la tradition avestique en arachosie. Bien, alors, il m'était apparu lors de ces cours que j'avais faits il y a 10 ans sous le titre les Mazdéens ont-ils eu un livre sacré, n'est-ce pas, c'est que l'Avesta lui-même, curieusement, fait l'histoire de ces textes. Il fait l'histoire de ces textes. Il le fait, en réalité, il le fait 3 fois. Et ce sont dans les secteurs de textes dont nous avons parlé. L'Anivite, j'y reviens, le Yasna 1, phrase, strophe, je ne sais pas si on peut parler de strophe, mais en tout cas, ou les périodes 10 à 18, décrit un corpus textuel, fait l'analyse, stipule, n'est-ce pas, les textes qui composent ce qu'il nous faut bien appeler un corpus, et que l'auteur appelle lui-même les ratous, nous retrouvons notre mot, hein, les ratous, donc les paroles sacrées, c'est un mot fort, ratous, hein, ces textes sont considérés comme sacrés. Et ils sont définis comme païri avani. C'est-à-dire que ces textes sacrés se disposent autour du havani, le temps du pressurage de Hauma. Disposés autour du temps du pressurage. Les ratous disposés autour du temps du pressurage. Donc, il semble que ce corpus soit celui que l'on récite dans le cadre d'une liturgie dont la Nivite est représentative. Ces textes-là ont un statut particulier, prestigieux, puisqu'ils sont considérés comme des ratous. Et ils ont été, ce qui nous démontre d'ailleurs, ce qui démontre qu'il s'agit bien de textes et pas d'autre chose, ils ont été enseignés par voie orale. Sars, le verbe sar. Ils ont été enseignés par Ahura Mazda et ils ont été récités par Zarathustra. Vous voyez, l'image qui se dessine, c'est que ce corpus de textes a été enseigné par le grand dieu à Zarathustra et que Zarathustra a fourni le modèle d'une récitation sacrificielle de ces textes. Donc, ces textes sont donc mis clairement en relation avec une fonction rituelle. Or, quels sont ces textes? Bon, il n'y a rien de très précis, comme vous allez voir, mais tout de même, c'est extrêmement intéressant. Il s'agit de textes concernant Ahura Mazda. Que considère-t-on comme un texte concernant Ahura Mazda? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Un texte concernant Mitra, dont nous avons la formule de base. C'est la formule de base du Yasht 10. Donc le Yasht 10 est évoqué. Enfin, un texte qui mentionne les astres. Mentionne les astres, dont nommément l'étoile Tishtriya, responsable de la distribution de l'eau, hein, celui qui provoque la saison des pluies, l'étoile Tishtriya, la lune et le soleil. Ce sont respectivement les yashs de 8, 7 et 6. Enfin, deux textes que nous ne pouvons pas identifier, mais qui mentionnent de toi le feu d'Ahura Mazda, de toi le feu fils d'Ahura Mazda. Ça semble être la formule de base du texte. Aucun texte n'a cette formule, que nous possédons encore n'a cette formule de base. Et l'autre contient l'expression pour les bonnes eaux. Pour les bonnes eaux. Là aussi, nous ne disposons pas de texte qui donne au datif comme cela le bénéficiaire du texte, les eaux. Donc, inidentifiable. Enfin, ce qu'on appelle le mantra spenta, la formule bénéfique, si je traduis. C'est le nom que l'Avesta donne à l'Avesta ancien. L'Avesta ancien, c'est l'Avesta ancien, c'est le corpus ancien. Mais on ne spécifie pas sa composition. Enfin, le data vidaiva, allez, en gros data, c'est la loi. Hein, la loi de rupture avec les démons. C'est le livre Videvdat, un livre que possède l'Avesta édité par Geltner et que possède aussi l'Avesta sassanide dans la description du Descartes. Ce texte, nous l'avons en principe. Enfin, la data Zarathustri, la loi de Zarathustra, ce n'est pas ce quoi il s'agit. Un texte curieux, Darga ou Payana, pouvons aussi que nous interroger, ce qui signifie la longue approche, s'approche de quelqu'un longuement. De quoi peut-il bien s'agir? Enfin, un texte qui s'appelle la Daina Mazdayasni, le nom de l'âme immortelle féminine, la Daina, et cette âme-là, en tant qu'elle appartient à quelqu'un qui rend le sacrifice à Ahura Mazda. Peut-être la formule Astouye, n'est-ce pas, de la zone des déclarations est-elle un fragment de ce texte. Enfin, un texte concernant le Kwarna, un texte sur le Kwarna. Le Kwarna qui est une force, n'est-ce pas, qui est une force d'abondance, comme il a été montré récemment. C'est le Yasht 19, en principe. La Dharma Afriti, ce qui signifie la propitiation experte, Yasna 60. Enfin, des textes qui semblent des textes, entre guillemets, hein, scientifiques, en ce qu'ils font la description de l'univers. Ils énumèrent les éléments de l'espace habité, les différents pays, les montagnes, les espaces cosmiques, les corps astraux, etc. Nous n'avons pas un texte complet de ce type qui soit répertorié. Enfin, le texte lui-même qui mentionne ces textes-là, je vous ai donné son titre la fois dernière, c'est le Ratavo Vispe Mazishta, tous les ratous les plus grands, qui est le texte lui-même, et enfin, un texte qui concerne les Fravashi, dont nous pouvons suspecter à sa formule de base qu'il est proche du Yasht 13. Voilà l'univers textuel sacré de l'auteur de la Nivite. Est-ce que cela nous apprend quelque chose? Nous n'avons pas, évidemment, c'est très intéressant de voir de quel texte il dispose, mais nous ne devons pas non plus nous faire beaucoup d'illusions. De tous les textes qui sont mentionnés là, un seul correspond très clairement à ce que nous possédons, sinon au pied de la lettre, du moins dans sa composition, car le Yasht 19, le texte au Kwarna, en quelque sorte, la phrase de la Nivite en dresse la table des matières. C'est la table des matières que nous possédons. Mais pour le reste, nous ne savons pas si la version de ces textes dans la visée de l'auteur du Yasna correspond à celle que nous avons. Or, j'ai proposé à l'époque, je vous renvoie au journal asiatique, le journal asiatique de 1998, où j'ai utilisé le témoignage de la Nivite pour la faire servir à une histoire de l'édification progressive du canon avestique, j'ai proposé de le définir comme proto-yasna A. Car il y a un proto-yasna B. Il y a un proto-yasna B. Le Visprat. Vous savez que le Visprat est un texte complémentaire du Yasna. C'est un texte qui est très curieux, parce que les compléments qu'il apporte au Yasna sont de types divers. Parfois, il s'agit de variantes. De variantes portant sur l'ampleur de la formule. Ben, lorsque une divinité, mettons, est mentionnée dans un texte du Yasna avec trois épithètes, eh bien, cette formule-là est répétée dans le Visperet, mais avec cinq épithètes. Il s'agit donc de mettre en regard des formules à géométrie variable. C'est un complément possible. Un autre complément possible, c'est d'ajouter un item supplémentaire. C'est un supplément, dans ce cas-là, carrément. C'est pas... Donc, ou alors, la variante est plus importante. Nous avons vu dans la zone des déclarations que nous avions un développement extrêmement important, puisque c'était l'intercalation du Visprat à la fin du Holmstorm qui nous permettait de nous faire une idée, n'est-ce pas, de l'investiture du Collège des Sacrifiants à l'intérieur du rite du Yasna. Eh bien, le Visperet 1, que l'on peut porter comme complément au Yasna 1, c'est le complément Visprat de la Nivite, a lui aussi son horizon textuel. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Le voici. Visperet 1, 4 à 9. D'abord, ce que nous avons appelé les trois prières introductives de l'Avesta ancien. Avunavairia, Hashem Vohu, Yenke Hatam. Enfin, la Gata Ahunavaiti, la première Gata. Un texte inidentifiable qui concerne des femmes divines, ce qu'on appelle les Gnar. Ce sont les déesses, Gnar. Les Gnar, les femmes littéralement, mais c'est un nom de la femme qui est réservé à la déesse. Le Yasna Haptankaiti. Puis, un texte concernant la déesse dont nous connaissons les trois, nous connaissons ses trois épithètes, Arodvi, Sura, Anahita, la compétente, l'irrésistible, la non-liée, la déesse, nous savons, c'est probablement plus ou moins le Yasht 5, puisque le Yasht 5 est le Yasht à cette déesse. Enfin, l'Ushtavaiti Gata, la deuxième Gata, donc. Et un texte concernant Vrtrakna. Concernant Vrtrakna, ce qui évoque le Yasht 14. La Vohukshatra Gata. Un texte concernant Mitra, c'est le Yash de 10, l'Agata Vaishto Yeshti, c'est-à-dire la cinquième Gata, enfin la propitiation experte, le Yasna 60, la prière conclusive de l'Avesta ancien, l'Arya Banishya, et un autre texte nouveau, celui-là, le Fshusho Mantra, c'est-à-dire le mantra du Radzieur de bétail. Le mantra, c'est le Yasna 58. Et puis, trois textes curieux qui surviennent ensemble. Ils clôturent la liste. Ils sont vrais, véritablement, ils sont énigmatiques, car nous n'avons aucune idée de ce qu'ils peuvent bien représenter. C'est l'Ahuri, Freshna, c'est-à-dire l'interrogatoire concernant Ahura Mazda. L'Ahuri Kaisha, c'est-à-dire la doctrine concernant Ahura Mazda. Et puis, plus étrangement, et avec une caractéristique veillavestique, un texte intitulé Hadish. Hadish. Ce qui, si nous traduisons le sadish du védique, c'est le socle du feu rituel. Le socle du feu. Nous n'avons rien de pareil dans les textes qui nous sont connus. Or, ici, n'est-ce pas, ces textes-là il nous est précisé, ce sont aussi des ratous. Ils ont donc un statut prestigieux particulier. Ils sont promus au rang de ratous, parole divine, parole sacrée. Ils forment un recueil, ils forment une collection. Mais il faut prendre ce mot de collection au sens de la littérature orale. Ils ne sont évidemment pas écrits, puisque c'est plus ancien que leur mise par écrit. C'est-à-dire handata, ils sont rassemblés. Et ils sont offerts en sacrifice solennel, ufra yeshta. À titre de, ça c'est intéressant, voir comment se produisent les associations lorsqu'il s'agit de quelque chose d'immatériel, ils sont offerts en sacrifice à titre d'offrande solide. Donc un texte récité dans la vision rituelle est assimilé à l'offrande solide et pas à l'offrande liquide. C'est très intéressant à noter en tant que miasda. Enfin, ils ont un caractère yesnia, c'est-à-dire ils sont adaptés au sacrifice, ils sont adéquats au sacrifice, et ils sont adéquats à la prière. Et ce caractère d'adéquation aux deux volets d'une cérémonie liturgique, le sacrifice et le varma, la prière, a été révélé par Ahura Mazda à Zarathustra. Révélé, il était enseigné par Ahura Mazda à Zarathustra. Bon, voici un deuxième corpus textuel, différent, dans un texte complémentaire au Yasna. Deuxième corpus. Bon. Alors, quelle est la différence dans le, je ne vais pas entrer bon, les différences sur la question que telle ou telle divinité est évoquée dans un corpus et pas dans l'autre, etc. Je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser. Je l'ai fait, parce que je réfléchissais encore comme cela à l'époque, il y a 10 ans. Mais je crois qu'il y a une différence qui, elle, est extrêmement importante, c'est que dans la version du Visprat, l'Avesta ancien est représenté tel que nous le possédons, exactement tel que nous le possédons. Sa composition, la succession de ces textes est la même que pour nous. Et cela confirme que pour l'auteur du Visprat, du complément au Yasna, n'est-ce pas ? Eh bien, cet auteur ne reconnaissait plus d'autres textes vieil avestiques que ceux que nous possédons, nous, aujourd'hui. Donc, l'édition, pour prendre encore un terme, n'est-ce pas, qui concerne plutôt la littérature écrite, l'édition de l'Avesta ancien est faite lorsque le Visparet 1 a été rédigé. Elle est faite. C'est ce qui confirme une opinion que Geltner avait émise à cet égard. C'est dire que pour les commentateurs de l'Avesta récent, l'Avesta ancien était ce que nous possédons et rien d'autre. Les commentateurs de l'Avesta récent ne connaissaient pas d'autres textes vieil avestiques que ceux qui nous sont parvenus. Vous voyez cette petite différence tout de même, et nous pouvons tirer une petite note de chronologie relative. Nous avons examiné l'an dernier ce que nous avons appelé la couche moyenne avestique. Eh bien, pour le commentateur moyenne avestique, le commentateur vieil avestique, lui, a recours, n'est-ce pas, peut avoir recours à des textes vieil avestiques que nous ne possédons pas. Cela lui arrive deux ou trois fois. La plupart de ces réutilisations du matériel vieil avestique proviennent du corpus que nous possédons aussi. Mais à deux ou trois reprises, il y a autre chose. Lui avait accès à d'autres textes. Et c'est vrai aussi du Shusho Mantra. Shusho Mantra est un texte très difficile parce que c'est un texte de commentaire. Il est aussi rédigé en moyenne avestique. Et j'avais réservé son examen pour le séminaire. Et Xavier Tremblay avait fait une analyse de ce Shusho Mantra que nous avions longuement discuté. Le commentateur avestique, moyenne avestique, pas qui est à l'œuvre dans le Shusho Mantra, connaît évidemment des textes vieil avestiques que nous ne possédons pas. C'est la très grosse différence, une des très grosses différences aussi entre moyenne avestique et avestique récent. Pas pour les auteurs de l'Avesta récent. L'Avesta ancien est une chose très ancienne, qui a la figure que nous connaissons. Bien, alors, il faut faire toutefois deux réserves. J'ai peut-être été un peu trop loin dans mon article d'il y a 10 ans, parce que j'ai travaillé à ce moment-là aussi, je dois le reconnaître, sous l'influence d'un article récent de Cherveux, Protz-Doktor Chervé, qui avait tenté de faire une histoire des textes avestiques en se fondant sur des critères de littérature orale et en distinguant trois phases d'élaboration d'un texte sacré comme l'Avesta, en voyant l'époque de la composition, n'est-ce pas, où les poètes sont à l'œuvre, se créent, l'époque de la création. Enfin, une fixation progressive du texte. Le texte devient lentement de texte canva, se transforme en texte nevaritur. Enfin, le texte nevaritur entame la phase de canonisation, c'est-à-dire qu'on le retient ou on ne le retient pas à l'intérieur d'une sélection particulière de textes. Il faut bien dire, il faut être, je crois, un peu plus sceptique à l'égard des témoignages que nous avons dans ce... dans cette nivide et son complément du Visprat. Nous n'avons aucune preuve de fixation. Nous n'avons aucune preuve de... Ces textes ne donnent aucune preuve que les textes qui l'évoquent ont été fixés. Aucun. Je vous rappelle que dans le meilleur des cas, nous savons que son texte sur le Kwarna se déroule selon exactement la même table des matières que notre Yashta 19. Mais dans le détail de la lettre, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Enfin, nous n'avons non plus aucune preuve de chronologie. Nous ne pouvons pas établir si la sélection du Visprat est plus récente que la sélection du Yasna. En baptisant l'un Proto-Yasna A et l'autre Proto-Yasna B, j'ai peut-être commis une petite erreur de terminologie parce que ça semble introduire de la chronologie à l'intérieur de la représentation des choses. Nous ne pouvons pas savoir si ces deux corpus n'étaient pas coexistants, n'étaient pas concomitants, si nous n'avons pas affaire à des variations d'école. Pas tel, d'autant que, de toute manière, les deux corpus ont comme caractéristique particulière de rôder autour de l'Avesta ancien. Mais nous ne pouvons pas ne pouvons tirer aucun indice de chronologie. Bien. Alors, maintenant, notre Yasna 16, pour y revenir. C'est un autre témoignage. C'est un autre témoignage. Parce que sa caractéristique, si on s'y rapporte, on dit donc, dans la liste du Yasna, bon, notre texte, grande caractéristique de la liste du Visprat, c'est l'édition de l'Avesta ancien, la fixation définitive de l'Avesta ancien sous sa forme d'aujourd'hui. Enfin, dans le Yasna 16, ce qui caractérise la liste du Yasna 16, c'est justement sa disposition en calendrier. La disposition en calendrier a une implication très importante pour nous au point de vue philologique. Enfin, c'est que le corpus de textes qui est évoqué par le calendrier, ce sont exclusivement les Yashta. Ce sont exclusivement les Yashta. Or, dans l'horizon textuel du Yasna, dans l'horizon textuel du Visprat, c'est un millimélo. Il y a des textes, il y a des yashts, entre autres, n'est-ce pas? Or, dans le yasna que nous possédons, il n'y a pas de texte yasht. Tous les yashts, c'est-à-dire, je vous rappelle ce qu'est un yasht, un texte sacrificiel pour un dieu autre que Ahura Mazda. Texte sacrificiel pour un dieu autre qu'Ahura Mazda. Sacrificiel, oui, parce qu'en principe, un yasht dit « Yazamaïdé, nous sacrifions ». Il applique ce Yazamaïdé au nom de la divinité en question. Le corpus des Yashta est un corpus de textes sacrificiels pour les dieux autres qu'Ahura Mazda. Je crois que c'est bien une définition sur laquelle il y a un accord, sur lequel l'accord est général. Or, le calendrier implique que ces Yashta disparaissent du grand sacrifice liturgique. Ce que nous avons en fait dans le Yasna 16, c'est un témoignage sur la composition du Yasna tel que nous le possédons. Le Yasna, comme nous le possédons, exclut tout texte que l'on peut définir comme Yashta. Ce qui n'est pas le cas des corpus du Yasna 1 et du Visprat 1. Donc, nous avons ici, c'est un élément de chronologie, n'est-ce pas? Puisque nous avons l'aboutissement d'un processus qui fournit le texte liturgique que nous avons. Or, le calendrier a dû être composé avant que le corpus des Yashta soit constitué, puisque le corpus des Yashta est en gros destiné à faire un rassemblement de textes qui doivent servir à offrir un rite au Dieu qui patronne les jours du mois. À chaque jour, son rite. À chaque jour, son Dieu. À chaque jour, son texte. Et la liste des Yacht correspond au texte du calendrier. Et nous voyons donc, puisque la liste des sept noms de ceux que nous appellerons commodément, mais il faudra faire la critique de l'expression, les immortels bienfaisants, se constituent en même temps, on voit que il y a une implication aussi sur le Panthéon. Ce qui se produit, le texte liturgique du Yasna que nous possédons, a été sélectionné en fonction, en liaison avec la formation du calendrier. Tout au moins, non pas le calendrier au sens mathématique du terme, mais au sens odomastique du terme. Au baptême par des jours du nom, au baptême des jours du mois, qui reçoivent le nom d'une divinité particulière. Enfin aussi, cette opération est concomitante de la naissance du corps des entités, des sept entités que l'on appellera Ameshaspenta. On voit donc qu'ici, avec le Yasna 16, il y a une triple métamorphose, où apparaître une triple métamorphose. Il y a une métamorphose du corpus liturgique de référence, avec l'expulsion de tout texte que l'on peut définir comme Yacht. Bien. Il y a une métamorphose du Panthéon, puisqu'on voit se constituer un Panthéon où il y a une couche intermédiaire entre Ahura Mazda Zarathustra et les dieux traditionnels, les dieux qui reçoivent un Yacht. Il y a la couche dite des entités. Enfin, il y a, bien sûr, aussi une métamorphose de la liturgie. Cela va de soi. La liturgie, n'est-ce pas, est maintenant entièrement centrée sur l'Avesta ancien. Non seulement il est édité, mais il occupe la place centrale de la récitation sacrificielle. On voit se former doucement ce triple processus, n'est-ce pas, qui comporte un triple aspect, se produit de cette manière. Alors voilà, je vous invite, n'est-ce pas, à voir, n'est-ce pas, à bien voir ce qui est en question. Alors, répétez les opérations précédentes pour leur donner la caution de la perfection rituelle, comme je l'ai dit peut-être, mais il y a autre chose. C'est que ces 12 chapitres qui vont du Yasna 15 au Yasna 27 jusqu'à l'Avesta ancien, c'est aussi autre chose. C'est un justificatif. L'auteur, n'est-ce pas, a introduit dans l'arrangeur du Yasna a introduit dans le préambule du sacrifice une série de digressions fort longues, mais qui sont la légitimation de son corpus textuel, du Panthéon qu'il a choisi d'honorer par le sacrifice, et aussi du cursus liturgique qui va avoir lieu. Donc, nous avons ici la justification de la triple métamorphose dont je vous parlais. Et cette opération est fondée sans doute sur une question qui semble avoir été récurrente dans la tradition mazdéenne ancienne. Je crois qu'à l'époque sassanide, les choses sont fixées. Mais pour le mazdéisme avestique, une question semble avoir été récurrente. Quel statut rituel faut-il réserver aux dieux autres qu'Ahura Mazda? Comment faut-il les associer au sacrifice? Vous savez qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'Avesta ancien. Aucun d'entre eux n'est mentionné dans l'Avesta ancien. Aucun. À ceci près, comme je vous l'ai expliqué, que dans le Yasna 51-22, la dernière strophe de la quatrième gatha, l'avant-dernière, l'auteur annonce une énumération de noms. Il va aussi procéder à son invitation, une sorte d'invitation sacrificielle, mais cet énoncé n'a pas lieu. La gatha se clôture. L'énigme vient se fondre dans cette absence, devant cette annonce qui n'est pas suivie effectivement, tout au moins dans le texte que nous avons, d'une mise en pratique. Alors pour l'auteur de la Nivite, comment associer les dieux au grand sacrifice solennel qui est rendu à Wamazda, la première strophe élogique en est la preuve, eh bien, c'est en les associant durant un temps limité, un temps du sacrifice, un moment du sacrifice, pendant un moment du sacrifice, qui est précisé. Telle divinité est associée au sacrifice. Tout le cursus est offert à Ahura Mazda, mais à tel moment sacrificiel, telle divinité lui est associée. C'est le sens du mot ratu au sens période récurrente du sacrifice. Donc ça, c'est la solution Nivid. La solution Visprat, c'est de placer les textes sacrificiels consacrés aux divinités autres qu'Ahura Mazda sous le patronage d'un texte vieil avestique. Chaque gata, le Yasna Haptankaiti, patronne un texte du type Yasht. Il y a patronage. Les gathas édités servent à chapeauter l'ensemble du texte sacrificiel. Alors, dans le Yasna que nous possédons, que fait-on? Eh bien, le nom des dieux est mentionné. Mais le sacrifice est rendu à Ahura Mazda. Mais aucun texte consacré au dieu autre qu'à Ahura Mazda n'est plus utilisé. Il y a une exception, vous le savez, certains d'entre vous le savent. Il y en a une, c'est toujours l'exception. Parce qu'avec cette divinité-là, il y a quelque chose de particulier et qui peut-être n'a pas encore été bien étudié, c'est le dieu Srausha. Le dieu Srausha, c'est la grande exception dans toutes les phases de développement de la liturgie mazdéenne, il est l'allégorie de l'effort pour entendre. C'est chercher à entendre, ça, le fait de chercher à entendre. Donc c'est une divinité qui est évidemment liée directement à la récitation rituelle. C'est le dieu qui ouvre les chemins aux hymnes des récitants sacrificiels pour qu'ils parviennent jusqu'au dieu. Donc il est nécessairement lié de manière très étroite au cursus rituel. Et ce n'est pas un hasard si ce dieu Srausha est le seul dieu qui soit mentionné dans les gathas, avec l'exception d'Ashi également, n'est-ce pas? Le dieu, eh bien, il y a dans le yasna, après l'Avesta ancien, un hymne sacrificiel, un yasht, le yasht de Srausha. C'est la seule exception. Mais le statut de Srausha est très particulier. Il est le dieu briseur d'obstacles par excellence, celui qui permet que la récitation aille droit chez les dieux. Cette récitation rectiligne dont parle fréquemment le texte et qui est la récitation, évidemment, dont le chemin va directement à l'oreille des dieux. Donc voilà, ceci sans doute est la seule exception. Vous voyez, le Yasna, l'Avesta lui-même, témoigne de l'histoire, je veux dire, de la formation d'un canon. On me l'a reproché récemment. On m'a reproché dans un livre qui est paru il y a quelques semaines, Antonio Panaino, dans les publications de l'Académie des sciences d'Autriche, m'a reproché d'avoir utilisé le mot canonisation pour définir le processus que je viens de vous décrire aujourd'hui, en l'agrandissant du Yasna 16. Parce que, dit-il, pour deux raisons que je ne comprends pas bien. La canonisation, dit-il, ne s'explique que s'il y a un canon, c'est-à-dire un texte écrit. Donc pour lui, on ne peut pas parler de canon, semble-t-il, dans le cadre des littératures orales. Je ne suis pas sûr que si l'on sait bien que nous avons parlé de canonisation, nous avons parlé d'édition pour l'Avesta. Je sais que ce sont des termes qui s'appliquent à la littérature écrite. Oui. Mais je ne vois pas très bien où est le mal. Alors, il y a son deuxième argument est plus étrange, parce que je sais naturellement fort bien s'il faut en penser et pourquoi il a utilisé cet argument. Ensuite, dit-il, un canon, il faut qu'il y ait une autorité qui l'impose. Or, nous ne voyons pas, dit-il, quelle autorité peut imposer un canon dans l'histoire iranienne ancienne. Ça, cet argument-là, je sais d'où il vient, c'est pas, les achéménites sont certainement, et le clergé des mages, étaient certainement les autorités, dans le cas des mages religieuses, adéquates pour imposer un canon. Les rois achéménides, l'autorité politique adéquate pour imposer un canon. Mais ça ne convient pas naturellement à certains, parce que c'est trop tôt. Et cela compromet évidemment la fameuse date de 158 ans avant Alexandre, que certains ont cherché à ressusciter les dernières années, je crois, en vain. Je crois qu'il y a cette arrière-pensée, pas dans la critique du mot canonisation. En tout cas, prenez le mot canonisation que je vous offre, mais prenez-le avec des guillemets, n'est-ce pas ? Je l'applique à la littérature orale. Et j'ai essayé de vous montrer ces trois phases de canonisation dont la Vesta lui-même témoigne. Or, tout de même, ben, rang sacré, ce sont des ratous. Ben, ce sont des ratous. Ils forment un recueil. Ils sont, comme diraient les Indiens, samhita, c'est l'équivalent. Ben, c'est handata, handata. Il y a donc bien recueil, collection de textes. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.